Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, les auditeurs de Voice of Indonesia. Voici les journaux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence par le titre « L'aide indonésienne pour la Palestine arrive à Gaza ». La marine indonésienne a reçu de nouveaux navires fabriqués par une compagnie maritime italienne. 11 représentants indonésiens sont prêts pour les demi-finales du tournoi BWF Super 300 Thailand Master. Rosan Ruslani continue de promouvoir les opportunités d'investissement dans la capitale indonésienne auprès des investisseurs étrangers. Bon, chers auditeurs, voici les journaux en complet. Au total, 45 camions porte-conteneurs contenant de l'aide indonésienne pour la Palestine distribués par l'Agence nationale indonésienne Amil Zakat ou un indonésien abrégé en Basnas sont arrivés à Gaza. Ce camion porte-conteneur d'aide humanitaire a été acheminé via Rafah en collaboration avec les agences humanitaires égyptiennes Bait Zakat wa As-Sadaqat et Sunnah Al-Hayah. Le président de Basnas de la République d'Indonésie, Nur Ahmad, dans une déclaration à Jakarta, a déclaré qu'on espérait que cette assistance pourrait alléger le fardeau de nos frères et sœurs en Palestine. Nur Ahmad a expliqué que l'aide envoyée contenait plus de 50 000 cartons de colis contenant divers produits de première nécessité tels que des nouilles, du riz, des haricots, du fromage, du thon en conserve, des biscuits, des boîtes de jus, de la farine, des sauces et des dates. Il a souligné que l'assistance de 45 camions porte-conteneurs était la première étape car elle serait suivie par d'autres livraisons d'aide avec jusqu'à des centaines de camions qui seraient distribués par l'intermédiaire des partenaires de Basnas en Égypte. Si possible, Basnas construira des cuisines publiques et des services de santé à Gaza. La marine indonésienne a reçu de nouveaux navires fabriqués par la compagnie maritime italienne Fincantieri qui seront utilisés pour renforcer la défense maritime de l'Indonésie. Dans le communiqué de presse officiel de TNIAL cité par rri.co.id, on dit que les deux navires de patrouille offshore, Batu Gliator polyvalente d'Altura, étaient nommés respectivement KRI Brawijaya 320 et KRI Prabu Siliwangi 321. Le chef d'état-major de la marine indonésienne, l'amiral TNI Muhammad Ali, lors de son discours de bienvenue au chantier naval Fincantieri Mugiano en Italie, a expliqué que les noms choisis étaient un symbole d'espoir et de détermination à défendre la souveraineté et l'honneur de la nation tout au long des océans du monde. Mohamed Ali a souligné que la présence des deux navires italiens ferait non seulement partie de la flotte de la marine indonésienne, mais constituerait également une étape importante dans la modernisation des équipements de défense afin de maintenir la souveraineté et la sécurité du pays. Au total, 11 représentants indonésiens sont prêts à concourir pour des billets pour les demi-finales du tournoi BWF Super 300 Thailand Master. Lors des huitièmes de finale, Alwi Farhan était le seul représentant indonésien dans le secteur du simple masculin. Dans le secteur du simple féminin, l'Indonésie a placé deux représentants, à savoir Putri Kusumawardhani et Komang Ayu Cahyadewi. Putri, la troisième tête de série de ce tournoi, affrontera la représentante hôte et septième tête de série, Porn Picha Choi Kewang. Pendant ce temps, Komang Ayu, huitième tête de série, a été défiée par un autre représentant hôte, Pichamon Opatniput, lors du match d'aujourd'hui. Dans le secteur du double masculin, la première tête de série, Leoroli Karnando, Bagas Maulana, rencontrera une nouvelle paire sud-coréenne, Jin Yong et Seo Sung Jae. Pendant ce temps, le deuxième tête de série, Muhammad Sohibul Fikri et Daniel Martin, affronteront les huitièmes têtes de série indiennes, Prudvi Krishnamurti Roy et Sai Pratik Ka, en quart de finale. Le ministre de l'Investissement et de l'Aval, ou chef du Conseil de coordination des investissements, Rosan Ruslani, continue de promouvoir les opportunités d'investissement dans la capitale de Nusantara, ou en indonésien abrégé en IKN, dans le Kalimantan de l'Est auprès des investisseurs étrangers. Rosana Jakarta a déclaré que l'investissement dans la capitale de Nusantara est à long terme, étant donné que la construction de nouvelles capitales prend beaucoup de temps, environ 25 à 30 ans. En dehors de cela, le développement d'IKN s'inscrit également dans la perspective d'une ville forestière intelligente où IKN devient une ville propre et respectueuse de l'environnement en termes d'énergie, d'infrastructures, etc. Selon Rosan, l'intérêt des investisseurs étrangers pour investir dans IKN existe déjà, comme en témoignent les entreprises singapouriennes qui investissent dans des panneaux solaires dans l'archipel du Kalimantan de l'Est. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission des commentaires d'aujourd'hui intitulée « PME attire l'attention des participants au Forum économique mondial 2025 en Suisse » avec Maudry. Sur le tard, le secteur des micro, petites et moyennes entreprises, MPME, est depuis longtemps l'un des principaux piliers de l'économie indonésienne. Sous la direction du président Prabowo Subianto, le gouvernement s'est engagé à faire des MPME la force motrice de l'économie. Lors de l'inauguration du cabinet rouge et blanc, le président Prabowo a déclaré qu'il avait une grande vision pour aider les MPME à progresser dans la classe, notamment en devenant international. Il existe une entreprise MPME de Bandung qui a réussi à attirer l'attention du monde entier lors du Forum économique mondial WEF 2025 qui s'est tenu à Davos, en Suisse. Avec ses produits de qualité supérieure, les chips de bœuf, rendang, et de rendang au bœuf. Le OMKM Restumande, qui sert de la nourriture au pavillon indonésien, a reçu un accueil chaleureux de la part des visiteurs en raison de son goût délicieux et authentique. Selon Ishda Ramadanti, directrice du développement commercial de Restumande, en plus d'offrir des saveurs authentiques riches en épices, Restumande a un autre avantage, avoir une certification complète de qualité alimentaire. Il a même réussi à répondre aux normes et à la certification de la Food and Drug Administration, FDA, des États-Unis, ce qui est très difficile à obtenir. De plus, cette PME a également obtenu diverses certifications allant de la certification halal par le Conseil indonésien des Ulema à l'Agence indonésienne de surveillance des aliments et des médicaments en passant par la déclaration de certification des bonnes pratiques de fabrication et la certification des points critiques d'analyse des risques. Dotée d'une certification complète, cette EMKM basée à Bandung se développe sur le marché international. Actuellement, ces produits sont entrés avec succès sur les marchés de Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Qatar, d'Australie et de Singapour. Un autre point intéressant est que cette PME ne se concentre pas uniquement sur le profit, mais crée également un impact positif sur la communauté locale. Entre autres choses, en ouvrant des opportunités d'emploi aux femmes au foyer avec des horaires de travail flexibles et en travaillant avec les agriculteurs locaux autour de Bandung, Java occidentale, pour garantir qu'ils obtiennent des matières premières de qualité. Cela s'inscrit certainement dans le troisième idéal du programme Astachita du président Prabowo Subianto, c'est-à-dire 8 missions, à savoir accroître les opportunités d'emploi de qualité, encourager l'entrepreneuriat, développer l'industrie créative et poursuivre le développement des infrastructures. À l'avenir, on espère que les micro, petites et moyennes entreprises pourront véritablement jouer un rôle de pilier de l'économie nationale. Bon chercheur et tard, c'est tout. Le commentaire.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'avènement du 1er février 1979. Ayatollah Khomeini est retourné en Iran. Ayatollah Khomeini était un chef religieux et homme politique islamique chiite iranien. Le 1er février 1979, Ayatollah Ruhollah Khomeini rentre triomphalement en Iran après 15 ans d'exil en France par le gouvernement d'Oucha. Le retour de Khomeini est intervenu deux semaines après que le Shah et sa famille ont quitté le pays et que la révolution islamique qui a conduit à un gouvernement fondamentaliste sous la direction de Khomeini s'est installée en Iran. Il est devenu le leader de la révolution iranienne de 1979 qui a témoigné le renversement du Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi. Après la révolution, Khomeini est devenu le guide suprême du pays. Passons maintenant à l'événement du 1er février 2003, la navette spatiale Columbia a explosé. La navette spatiale Columbia appartenant aux États-Unis a explosé dans le ciel lorsqu'elle atterrirait au centre de la station spatiale Kennedy en Floride le 1er février 2003. 7 astronautes ont été tués. L'officiel de l'Agence spatiale nationale américaine, NASA, a mentionné l'accident survenu lorsque la navette spatiale construite en 1981 se trouvait à une altitude de 60 000 pieds de la Terre à une vitesse de 20 000 km par heure. La catastrophe de Columbia s'est produite lorsqu'un morceau de mousse de la taille d'un sac a heurté l'aile de l'avion et a laissé un trou dans la dalle de protection, rendant l'avion vulnérable lors de sa pénétration dans l'atmosphère. Avant d'exploser, la navette venait de terminer sa 28e mission après avoir décollé le 16 janvier 2003. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 1er février 1992. L'UNESCO a désigné le parc national de Junkulon comme site de patrimoine mondial naturel. Le parc national de Junkulon est un parc national situé dans la province de Banten qui couvre les zones des sous-districts de Sumur et de Chimangu, la résidence de Pandeglang. La Commission du patrimoine mondial de l'UNESCO a désigné le parc national de Junkulon comme site naturel du patrimoine mondial le 1er février 1992. L'un des privilèges du parc national de Junkulon est d'être un habitat naturel pour les rhinocéros de Java et gibbons javanais en voie de disparition. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Rasa sayang, senyummu juga sedihmu. Aduh.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie. Donc le titre est « Le ministère de l'énergie et des ressources minérales estime que l'Indonésie est capable de passer aux énergies renouvelables ». Un expert du ministère de l'énergie et des ressources minérales et SDM, Satya Hangayuda, a déclaré que l'Indonésie est capable de passer des combustibles fossiles aux énergies nouvelles et renouvelables, EBT, garantissant l'existence d'objectifs d'émissions fixes de carbone. Selon Satya, le processus de transition s'effectue en fonction des limites de capacité nationale et se réfère aux normes appliquées par les pays développés. Dans sa déclaration à Jakarta, mercredi, Satya a expliqué que la transition énergétique doit être progressive. L'Indonésie se tourne vers les énergies renouvelables, mais le charbon reste une source d'énergie compétitive et bon marché. Par conséquent, pour que l'Indonésie soit cohérente avec la réduction des émissions de carbone des centrales électriques au charbon, il est nécessaire de procéder à une co-combustion avec de la biomasse et à l'avenir avec une technologie de stockage du carbone. En outre, selon Satya, ses fonctions d'expert auprès du ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales pour la commercialisation et le transport du pétrole et du gaz constituent un mandat en sa qualité d'assister le ministre et le vice-ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales dans l'exercice de leurs fonctions qui sont conformes à la vision et à la mission du président et du vice-président de la République d'Indonésie, à savoir les points 2 et 5 d'Astacita sur l'autosuffisance énergétique et l'aval. Il a déclaré que sous la direction du président Prabowo, l'Indonésie développera de nouvelles énergies renouvelables et réduira sa dépendance aux combustibles fossiles. Il a déclaré qu'à l'an 2040, plus de 100 gigawatts de capacité énergétique seront construits, dont 75% proviendront des énergies renouvelables, 5 gigawatts du nucléaire et 20 gigawatts du gaz. L'ancien analyste de la commercialisation du pétrole et du gaz pour le groupe de travail spécial SKK du pétrole et du gaz, Migas, espère qu'avec le décret présidentiel du groupe de travail national sur l'aval et la résilience énergétique dirigé par le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, il pourra augmenter les investissements, l'aval et devenir un déclencheur de croissance économique, de création d'emplois et d'augmentation de la valeur ajoutée des produits de base indonésiens. Satya a expliqué que l'Indonésie doit être capable de passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris en 2030 et également celui de zéro émission nette NZE en 2060. La réduction progressive du charbon est importante, mais il doit y avoir une solution. C'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine culturel intitulé « Cuisine des Babat Gonso » ou « Trips de Gonso » avec Maudrey. Chers auditeurs, lors de votre voyage à Semarang, Java Central, n'oubliez pas de goûter aux différentes spécialités culinaires. Il y a des lumpia qui sont très populaires. Il y a aussi le babat gonso, un plat culinaire en goût unique, en tantan. Vous pourrez déguster ces délices culinaires le matin, l'après-midi ou le soir. Si vous visitez Semarang, vous pouvez vous arrêter dans plusieurs restaurants pour déguster ce plat de trip gonso. Le babat gonso ou trip gonso est généralement vendu par les vendeurs de riz frit babat. Les vendeurs de riz frit se promènent depuis le matin et se frayent un chemin. Certains traînent devant les ruelles ou dans les kiosques. Chers amis, le babat gonso est fabriqué à partir de tripes de bœuf bouillies jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Les tripes sont la muqueuse comestible de l'estomac du bétail. Une fois tendres, les tripes sont sautées ou rôties avec diverses épices. Les épices utilisées comprennent des échalotes, de l'ail, des piments et de la sauce soja sucrée. Une fois dégusté, ce plat est un vrai délice. La texture des tripes est douce avec un assaisonnement équilibré entre le piquant du piment et la douceur de la sauce soja sucrée. Le babat gonso sera encore plus délicieux s'il est mangé avec une assiette de riz chaud. Chers amis, en plus d'être délicieux, le babat gonso est également connu comme un aliment riche en nutriments, notamment en protéines provenant des tripes de bœuf. Déguster du babat gonso à Semarang sera une expérience culinaire à ne pas manquer. Essayez cette authentique spécialité culinaire de Semarang. Le prix est d'environ 20 000 et 30 000 de roupies par portion avec du riz blanc. Bon chargé d'art, c'est tout, le magazine culturel.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Chers amis, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée « Étudiants de l'Université Gajah Mada remporte le concours de développeur Huawei RZ Pacific » avec moi Audrey. Chers auditeurs, l'équipe d'étudiants du département de génie électrique et des technologies de l'information DTETI, Faculté d'ingénierie, Université Gajah Mada, UGM, Yogyakarta, a participé au concours des développeurs Huawei 2024 Asie-Pacifique à l'Université Chulalongkorn à Bangkok, en Thaïlande, du 20 au 21 janvier. Lors de la compétition, les étudiants du DTETI ont rejoint les étudiants du département de génie mécanique et industriel DTMI au sein de l'équipe HyFlex. Lors de la finale, l'équipe HyFlex a remporté la première place du concours des développeurs Huawei 2024 Asie-Pacifique pour son innovation. Après avoir concouru avec 662 220 équipes pour un prix total de $34,000 américains. Au fond, l'un des membres de l'équipe a déclaré que l'équipe HyFlex a conçu des innovations basées sur des idées qu'ils ont eux-mêmes imaginées et étudiées. Ce jeu tard dans cette compétition, chaque équipe développe des technologies de l'information et de la communication TIC pour trouver des solutions à des problèmes réels en utilisant la technologie cloud de Huawei. Toutes les équipes participantes sont divisées en catégories Enterprise Track et Student Track. Si lauréat ont été récompensés dans chacune des deux catégories après être passés par plusieurs étapes de sélection. Depuis la soumission des propositions, la présentation des démonstrations de solutions jusqu'à la compétition lors de la phase finale. Chers amis, lors du concours Huawei Developer Competition Asia Pacific de cette année, deux des six équipes de la catégorie Student Track sont des contingents de l'UGM. Outre HyFlex, une autre équipe est l'équipe Claudia qui se compose d'étudiants du département d'informatique et d'électronique FMIPA, Université Gajah Mada, UGM. Cette équipe a réussi à remporter la deuxième place. Bon chargé d'art, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Takkan pernah sirna bayang tentang dirimu, mengharap kau kembali ke dalam pelukan. Hanya sisakan luka yang semakin dalam. Sampai kapan ku harus tangisi rindu yang tak terbalas? Masih ada kecil
cinta ini. Maka ku persembahkan bila kesetiaanku hanyalah bagimu kekasihku. Masih ada kecintaan untukku, walau hanya untuk kau kenang. Andai harus kehilanganmu, ku bawa hatimu ke dalam jiwaku.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Thank you. jantungku ini terasa cepat berdetak saat terdengar kau ada main.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Chers amis, maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine musical avec Maudry. Et cette fois, comme chaque vendredi, je vais vous présenter une chanson pop régionale du centre de Sulawesi intitulée Sampesuvuroa. Cher ami, Sampesuvuroa signifie en langue Kaili cousin et ami. Cette chanson est très populaire parmi le peuple Kaili qui habite la majeure partie de la province centrale de Sulawesi. Sampesuvuroa raconte l'histoire d'un jeune homme qui voyage pendant 20 ans à la recherche d'une vie meilleure. Après un long moment, il rentra chez lui avec un cœur plein de nostalgie, espérant retrouver ses cousins et amis décédés. Pour chercher tard, voici la chanson intitulée Sampesuvuroa, chantée par Ungu. Bonne écoute.
Thank you. ae yaku hau ringatan tona numpalai si sampe sufu anteroa nanggelokan kuat alama sana majadi rapu tambah sampe sufu roa.
Voice of Indonesia.
Apakah kamu
lagi beri kamu hidup palsu ini. Aku bukan diriku, hidup dalam hidupmu. Sungguh ini bukanlah diriku. Takkan ku teruskan lagi. Lebih baik luka saat ini. Aku bukan diriku, hidup dalam hidupmu. Sungguh ini bukanlah diriku.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.